Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Axel Mauger, écrivain, essayiste, analyste du français dans le monde, nous présente dans cette émission d'une série de deux le fait français aux États-Unis. Dans cette première partie, Axel Mauger nous présente l'Empire français d'Amérique et l'importance de la présence française depuis près de 4 siècles.
1605 est une date à retenir car il s'agit du premier établissement français du Canada à Port-Royal. Ensuite, en 1608, nous avons l'arrivée de Champlain en Nouvelle-France, le traité avec les Hurons et les Algonquins au détriment des Iroquois. Puis en 1621, une date aussi extrêmement importante, c'est le départ de Huguenots pour la Nouvelle-Amsterdam, c'est-à-dire ce qui deviendra plus tard New York. En 1627, nous avons la fondation de la Compagnie des 100 associés qui permettent évidemment un développement entre la France et le Canada. Puis de 1630 à 1640, développement de la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Canada, dans la vallée du Saint-Laurent. Donc vous voyez, on peut dire qu'en 1640, les Français commencent à avoir une implantation tout à fait sérieuse au Canada, voire même importante. En 1632, un projet de sédentarisation des Indiens est proposé par les Jésuites. Ensuite, en 1663, ce sont des dates importantes, évidemment, que je rappelle ici. En 1663, l'édit du 21 mars, la Nouvelle-France devient colonie de la couronne. Alors, nous arrivons en 1664 et c'est la prise de la Nouvelle-Amsterdam par les Anglais, c'est-à-dire en fait la prise de New York en 1664. Et aussitôt, nous assistons à une réaction française, et c'est la guerre contre les Iroquois. Ensuite, d'autres dates de cette présence française, qui, je le rappelle, date depuis 4 siècles, 1672 à 1682, vous avez un personnage important, Louis de Buade, comte de Paluaud et de Frontenac, qui devient gouverneur du Canada. 1673 à 1683, nous assistons à une phase d'expansion française dans la vallée du Mississippi. C'est extrêmement important, car encore aujourd'hui, dans cet État ou ces États américains, il y a encore l'évocation de nombreux noms français, etc., d'une histoire française tout à fait considérable. 1673, construction du fort Cataraqui, expédition de deux grands explorateurs qui s'appellent l'un Marquette et l'autre Joliette. En 1678, exploration d'un autre Français, qui devient d'ailleurs un Canadien français, qui s'appelle Duluth, dans ce qui s'appelle l'État du Minnesota. 1679, nous sommes toujours au XVIIe siècle, première expédition de Cavelier de la Salle. Donc on le voit à cette époque, les Français sont très explorateurs, très aventureux, etc., etc. En 1682, et ça c'est grave, vous avez là une grande guerre contre les Iroquois. Cavelier de la Salle, donc cet explorateur, construit le fort Saint-Louis du Rocher et il prend possession de la Louisiane. 1682-1685, Antoine Lefebvre de la Barre devient le gouverneur de la Nouvelle-France. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que nous ne sommes même pas au début du XVIIIe siècle et les Français occupent une partie importante des États-Unis d'aujourd'hui, avec peu d'hommes, peu de femmes, puisque on peut dire qu'en 1763, les Français sont à peine hommes et femmes, 65 000 pour le Canada, seulement le Canada, donc je ne parle pas de la Nouvelle-Orléans, là, etc. Mais ils ont réussi ce tour de force d'occuper le terrain, donc une partie importante des États-Unis, parce qu'ils se sont alliés avec de très nombreuses tribus indiennes. Donc il y a on peut presque parler, ça il faudrait consacrer évidemment une émission particulière, et on peut presque parler par moment de début d'amorce de nations métisses entre Français et Indiens. Alors, en 1684, nouvelle guerre franco-iroquoise. Puis, en 1685, le 22 octobre, n'oublions pas, révocation de l'édit de Nantes, publication du Code noir à l'intention des Indes occidentales et, la même année, construction de Fort Niagara. Donc, fort important, etc. Ensuite, en 1689, vous avez quelque chose qui frappe beaucoup les esprits au Canada et notamment chez les Français du Canada, c'est le massacre de la Chine en Nouvelle-France où il y a évidemment beaucoup de personnes massacrées, notamment par les Indiens en 1689, ça doit être les Iroquois je présume. 1689-1698, Louis de Buade, comte de Paluau et de Frontenac, est gouverneur en Nouvelle-France. Nous arrivons vers la fin du XVIIe siècle, encore une guerre avec les Iroquois en 1696. Puis nous avons le traité de Ryswick. L'Acadie et la baie d'Hudson sont données à la France. Terre-Neuve est donnée, elle, à l'Angleterre. Puis en 1698, vous voyez, nous approchons du XVIIIe siècle, fin du monopole des jésuites en Illinois et concession. Donc il y a une guerre, la guéguerre entre Français, entre religieux, entre notamment jésuites et missions étrangères. Et donc, le monopole des jésuites est supprimé en Illinois, donc État américain, comme vous le savez, et il y a au contraire, la concession est donnée aux missions étrangères. En 1699, établissement de la Louisiane par le moine d'Iberville. Ensuite, 1701, Cadillac débarque à Détroit et crée le fort de Pontchartrain. 1702, nous arrivons au XVIIIe siècle, donc c'est le début du XVIIIe siècle, le moine de Bienville exerce le commandement de fait en Louisiane, et 1703 à 1725, Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, est nommé gouverneur de la Nouvelle-France. On peut dire donc qu'en ce début du XVIIIe siècle, en 1712, nous assistons à l'apogée de la Nouvelle-France. Et c'était très, très important de rappeler cette histoire. Pourquoi ? Parce que on comprend la raison pour laquelle le français aujourd'hui continue d'être important aux États-Unis, bien sûr, et au Canada d'abord. Donc aux États-Unis ensuite et au Canada d'abord. Pourquoi ? Ben, pour une raison très simple, c'est que on peut dire que pendant près d'un siècle, les Français, les premiers, ont occupé les États-Unis avec notamment les Indiens, évidemment, qui étaient les personnes qui habitaient le territoire. 1713, je continue ma présentation historique, traité d'Utrecht, baie d'Hudson et Acadie sont donnés à l'Angleterre. Ensuite, 1713-1716, La Motte Cadillac est gouverneur de la Louisiane. 1713-1767, je dis bien 1767, conflit entre la France et l'Angleterre sur le continent américain. Puis, une période intéressante qui arrive, 1715-1744, période de paix avec les Iroquois. En 1717, l'Illinois est annexé à la Louisiane. Celle-ci est concédée à la Compagnie d'Occident. Et en 1718, vous voyez que les Français continuent de s'installer en Amérique du Nord, fondation de la Nouvelle-Orléans. 1719, la Compagnie d'Occident devient la Compagnie des Indes. En 1722, l'Illinois est érigé en province. En 1723, construction de Fort Orléans par le sieur de Bourgmont. Ensuite, en 1724, le Code noir est promulgué pour la Louisiane, donc évidemment qui sera plus tard supprimé grâce à Victor Schœlcher, bien sûr. Nous avons ensuite encore quelques dates importantes. En 1735, par exemple, fondation de Sainte-Geneviève dans le Missouri. Or, si aujourd'hui vous vous rendez dans le Missouri, État américain, vous découvrez tout d'un coup avec stupéfaction cette ville de Sainte-Geneviève, qui je crois doit faire 400 000 habitants aujourd'hui, dont l'architecture est totalement française. Donc vous avez au cœur même des États-Unis une ville qui reste très française, évidemment, par son aspect architectural, il va sans dire. En 1752, Pierre de Rigaud de Vaudreuil est gouverneur du Canada. En 1754, les Français s'emparent du fort Duquesne. Donc vous voyez, les Français, à l'époque, ne se laissent pas forcément grignoter par les envahisseurs anglo-saxons, mais essaient de résister de façon extrêmement forte Pourquoi arrivent-ils à résister? Parce qu'ils connaissent très bien le terrain. Ce sont des gens de terrain, des chasseurs, des coureurs des bois, et sont alliés en plus avec de très nombreuses tribus indiennes, il va sans dire. Alors ensuite, par contre, le nombre des Anglais augmente de façon considérable, et on peut dire que pour un Français en Amérique du Nord, vers 1750-1760, pour un Français, il y a 10 Anglais. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement important. Alors, 1758, chute de Louisbourg, et de Fort Frontenac, de Fort Duquesne aussi. Donc les Anglais s'emparent évidemment de ces forts importants. 1759, perte de Fort Carillon, siège et capitulation de Québec. Nous arrivons à 1763, une date terrible pour la France et surtout pour les Canadiens français, c'est le traité de Paris. Et là, nous avons les territoires de Fort Mobile, d'Alabama, du Fort de Chartres, dans l'Illinois, qui sont cédés à l'Angleterre. La France renonce de son côté au Cap-Breton, au Canada, à la partie située, donc tout ce qui est ce qu'on appelle la Nouvelle-France, à la partie située à l'est du Mississippi, sauf la Nouvelle-Orléans, et la Floride est aussi cédée aux anglophones. La population de l'Acadie va être déportée vers d'autres colonies britanniques. C'est le début de ce qu'on appelle le Grand Dérangement. Ensuite, nous avons, en 1765, les Anglais prennent possession du fort de Chartres et des Illinois. Beaucoup de Français s'installent à Saint-Louis. Donc vous voyez, la présence française en Amérique du Nord est considérable, même si elle n'est pas très nombreuse au point de vue population, au point de vue démographique, mais elle reste considérable par la connaissance que les Français, devenus des Canadiens français, ont de leur territoire et par leurs alliances multiples avec les Indiens. Puis après, nous avons la période 1777-1783 et c'est bien sûr la guerre d'indépendance américaine. Mais alors, phénomène très intéressant, les Américains se soulèvent contre les Anglais et les Français, comme vous le savez, participent au combat de libération aux côtés des Américains. Évidemment, un peu pour se venger des Anglais. Alors, 1777, c'est l'arrivée de Lafayette et de nombreux officiers français qui se rangent du côté, évidemment, des Américains. 1778, le 6 février, signature de deux traités entre la France et les États-Unis. Nous avons ensuite le ralliement, c'est intéressant, des Français de l'Illinois aux Américains. Donc vous voyez que le fait que les Illinois, à l'époque, un peu avant, aient été cédés aux Anglais, n'avait pas supprimé toute la présence française dans les Illinois, il va sans dire. 1779, prise de Fort Vincennes dans le Missouri par les Américains et les Français, et nous avons quand même un échec, celui de l'amiral d'Estaing, l'amiral français d'Estaing, devant Savannah. 1780, une escadre et un corps expéditionnaire français de 6000 hommes, commandé par le comte de Rochambeau, débarque à Newport. Nous avons ensuite, en 1781, du 30 août au 19 octobre, campagne franco-américaine, capitulation des Anglais à Yorktown, ça c'est la grande victoire, sous la pression conjuguée des troupes de Rochambeau, des troupes françaises de Rochambeau, et de celles des Américains, évidemment. 1783, traité de Versailles, la Floride retourne à l'Espagne. 1790, début de l'arrivée des immigrés royalistes français et des réfugiés de Saint-Domingue. Et c'est une date importante que 1790, car le nombre de ces réfugiés était de plusieurs milliers de personnes. Donc ce qui, à l'époque, si vous voulez, donnait un chiffre quand même considérable et renforçait le fait français dans certaines régions des États-Unis, etc. Nous arrivons ensuite à 1803, pour faire court, et c'est le traité du 3 Floréal. Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis pour 80 millions de francs, etc. Donc le 20 décembre, la France remet la Louisiane aux États-Unis. Alors, encore quelques dates avant d'en arriver à l'époque évidemment plus moderne. En 1812, la Louisiane devient un État de l'Union américaine. En 1824, les Louisianais célèbrent les funérailles de Napoléon. Donc vous voyez, on reste en Louisiane quand même un côté français important. Ensuite, nous avons en 1855, l'apogée de l'émigration française aux États-Unis. Après, elle sera beaucoup moindre, si vous voulez, par rapport à cette date. 1860-1865, la guerre de sécession, guerre importante. Et contrairement à ce que les gens disent, il y a eu plus de Français engagés du côté des nordistes, c'est-à-dire de ceux qui refusaient l'esclavage et le Sud, que du côté du Sud. Ce qui est un peu paradoxal, on aurait pu croire le contraire. En fait, les chiffres nous indiquent nettement que beaucoup plus de Français étaient du côté des nordistes. Nous avons ensuite, de 1860-1900, un très grand exode, celui de plus de 500 000 Québécois qui s'expatrient aux États-Unis, notamment en Nouvelle-Angleterre. Or, aujourd'hui, par exemple, encore aujourd'hui, en 2007, plus de 40% des habitants du Maine, de l'État du Maine, ont une personne, un ascendant, une personne est d'origine française, par un ascendant. Arrivé en 1867, arrivée d'ouvriers français au Kansas pour l'industrie des soieries. En 1871, donc toute cette immigration française est très intéressante à analyser. Arrivée des communards de Paris aux États-Unis, enfin une partie des communards bien sûr. Et 1880-1890, participation des mineurs français au mouvement socialiste et anarchiste. En 1906, le docteur Alexis Carrel, futur prix Nobel, entre au Rockefeller Institute. En 1907, création de l'Alliance française de New York. 1911, formation de l'Institut français des États-Unis. 1914-1918, première guerre mondiale et une très grande entente entre la France et les États-Unis, il va sans dire, avec notamment la fameuse escadrille Lafayette, pour ne citer qu'elle. En 1927, fondation du Comité des sociétés de langue française aux États-Unis, fondation de l'Association américaine des enseignants de français aux États-Unis. Nous avons la Seconde Guerre mondiale, très complexe, nous en parlerons dans une prochaine émission. 1940, c'est évidemment le 29 juin 1940, fondation d'une association qui s'appelle France Forever, mouvement gaulliste, arrivé aux États-Unis des réfugiés, exilés et résistants français. Donc voilà, je reviendrai sur cette période très importante. Et pour conclure cette première émission, n'oublions pas, en 1960, le 28 avril, messe en présence de Charles de Gaulle à la basilique Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans, donc un moment historique. Et 1980, les États-Unis comptent 120 000 individus nés en France, ça ne veut pas dire ceux qui ne sont pas nés en France évidemment, dont 64% ont adopté la citoyenneté américaine. Les francophones, ce sont des chiffres, on peut dire, un peu contestables, qui sont donnés, ça dépend des historiens. Les francophones, 2 600 000 aux États-Unis, hein, j'entends bien, je ne parle pas du Canada, constituent la cinquième minorité linguistique des États-Unis, mais, j'ajoute, près de 13 millions d'Américains se disent de souche française. Donc vous voyez que les 65 000 Français de 1763 au Canada ont essaimé non seulement au Canada, mais énormément aux États-Unis, sans parler de l'apport des Français, des Belges, des Suisses et aujourd'hui de tous les francophones d'Afrique et d'ailleurs qui évidemment sont extrêmement dynamiques aux États-Unis.